Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le Bunker, dans ce nouvel épisode consacré aux films et aux séries qui ont trait à la guerre ou aux faits militaires d'une manière générale. Aujourd'hui, avec Angélique Pahl, chercheuse énergie et matières premières à l'IRSEM. Bonjour Angélique.
Bonjour Alexandre.
Et pour parler donc d'un film dont on a déjà parlé en plus dans le format, mais on en a parlé de manière assez différente, c'était avec Michel Goyer à l'époque, c'était donc ce Dune de Frank Herbert, le livre sorti en 1965, et puis ensuite l'adaptation de Denis Villeneuve de 2021, avec notamment Timothée Chalamet, Zendaya, etc. Enfin bon, on va pas faire toute la liste des acteurs. Et donc, je crois que c'est la première fois, en tout cas c'est une des premières fois qu'on refait un film ou une série, c'est pas qu'on manque de choix, hein. Il y a de quoi choisir, mais c'est, en fait je trouve ça aussi intéressant, les grandes œuvres, de les interroger un peu selon des profils et disons des angles différents, ce qui est tout à fait le cas. Évidemment, il ne s'agit pas de faire toujours la même émission, mais si on peut avoir des analyses un peu complémentaires sur des grands films, c'est tout à fait intéressant. Et donc, c'est plutôt l'angle stratégique, et notamment stratégie des ressources éventuellement, qui vous intéresse, Angélique. Alors dites-nous peut-être, qu'est-ce que vous avez pensé donc de ce Dune de Denis Villeneuve, et en quoi est-ce qu'il vous a intéressé disons, en géographe.
Il a deux éléments très intéressants qui touchent à beaucoup de sujets d'actualité, disons, assez brûlantes. Le premier, c'est la question du traitement des ressources naturelles, la question de l'épice. Et le deuxième, c'est la variable écologique. Comment est-ce que l'écosystème et l'utilisation des facteurs environnementaux devient quelque chose de central dans la gestion des conflits et aussi quelque chose de central finalement dans à la fois sur un plan stratégique mais aussi sur un plan tactique dans la gestion des combats.
Alors commençons, je sais pas, peut-être par l'épice. Cette épice qui est un truc très bizarre qui pousse donc uniquement sur la planète d'Arrakis dite Dune, qui est donc une épice hallucinogène rare qui se retrouve dans le désert, qui sert, on le comprend dans le film, enfin bon, c'est très clair dans le livre, qui sert au voyage intergalactique, en gros, il sert à voyager à travers l'espace et les navigateurs de la guilde qui se droguent avec, ça leur permet de calculer leur trajectoire. Avec d'ailleurs cette question, ce léger paradoxe que je soumets à l'auditeur de « Mais si les voyages intergalactiques sont permis par l'épice, comment l'épice a-t-elle été découverte ?» Mais donc, dites-nous ce qui vous intéresse.
Ce qui m'intéresse là-dedans, donc, l'épice, elle a deux volets intéressants. C'est, bon, vous l'avez mentionné, à la fois le côté hallucinogène, un peu type ayahuasca, et en même temps, la variable presque pétrolière. Elle est contrôlée par la CHOM, la compagnie des honnêtes au beurre marchand, qui est une espèce d'OPEP, qui en a beaucoup de caractéristiques. Et elle répond finalement à la grande question qui est celle de la mondialisation, mais qui est aussi celle qu'on trouve dans beaucoup d'œuvres de science-fiction. La même question est posée chez Asimov, par exemple, dans le cycle de Fondation, qui est comment est-ce qu'on gère la question des transports et la question d'une économie intégrée, finalement, d'un système monde ou d'un système planétaire, dans ce contexte où on est dépendant d'une seule ressource qui va être alors dans notre système à nous le pétrole principalement et qui là est matérialisé par l'épice. Et donc c'est toutes les questions de contrôle d'accès, de mise en ressources, la question des élongations logistiques qui se posent notamment et finalement comment est-ce qu'on met en ressources, comment est-ce qu'on contrôle ce facteur très important du transport interplanétaire qui, pour nous, est ce transport mondialisé.
Avec ce léger paradoxe que, contrairement au pétrole, on va dire, mais en même temps, il y a d'autres exemples en sens inverse, là, ceux qui sont sur la planète qui a donc la ressource extrêmement intéressante sont ceux qui en profitent le moins, puisque ce sont les Fremen qui, au contraire, sont plutôt asservis par la présence de cette ressource si précieuse, alors que bon, on ne peut pas dire que les pays de l'OPEP soient très mal portés de la présence de pétrole chez eux.
Oui, alors là, il y a vraiment une espèce de référence en fait à la question coloniale. C'est l'Empire et la compagnie des Honnêtes-Obermarchands, qui contrôlent cette ressource, qui est produite sur une planète colonisée. Donc on est vraiment sur une espèce de référence à l'Empire, finalement, à l'Empire construit par le Royaume-Uni, l'Empire britannique, et les premières utilisations à une échelle planétaire du pétrole dans le système de transport international.
On peut dire que la période de l'avant-guerre, enfin de l'entre-deux-guerres, est une période qui a pas mal stimulé Frank Herbert, parce que notamment... Bon, les Fremen, il y a un truc avec la révolte arabe, quoi, d'une manière générale, pendant la Première Guerre mondiale, avec ces peuples du désert qui tirent leurs forces du désert, on en parlait avec Michel Goya, enfin bon, Frank Herbert s'est pas mal tourné vers le Moyen-Orient, disons, de la première moitié du XXe siècle, pour fixer ces Fremen, quoi.
Ouais, il y a aussi une référence aux Bédouins, notamment du VIIe siècle. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que... finalement, cette question des dunes, elle vient plutôt de l'Oregon, où il est allé faire une enquête journalistique sur la fixation d'un système dunaire en expansion, qui l'a profondément marqué, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'il explique dans la genèse de l'œuvre. Et donc, on est sur un mélange, en fait, des genres avec des inspirations qui ne sont pas uniquement celles que...
Je ne savais pas qu'il y avait des dunes en Oregon.
Ben si. Et donc, nous, on a tendance à voir et à projeter à la fois... la chute de Kaboul, toutes les questions pétrolières, mais en fait le livre il sort au moment où le premier choc pétrolier n'a pas encore eu lieu, donc il a un côté très visionnaire et c'est ça ce qui est particulièrement intéressant et qui est bien traité finalement dans le film, au sens où c'est un support de projection pour un grand nombre de nos préoccupations actuelles, alors même qu'on est sur une œuvre qui les précède.
Tout à fait. Et alors, il y a aussi donc cette question de... Alors après, par ailleurs, je vais dire que ça évoque aussi d'autres choses qui sont apparues dans la littérature depuis, ce qu'on appelait parfois la malédiction des ressources, c'est-à-dire le fait qu'il y a tout un tas de configurations technico-politiques, disons, où en fait des peuples ont une ressource en main et par manque de ressources pour l'exploiter efficacement... Eh ben, ils s'en trouvent plutôt appauvris parce qu'ils sont obligés de faire venir des prestataires extérieurs, etc. Et que, en fin de compte, une ressource, l'exemple typique de ça, c'est les diamants en Afrique. C'est, bon, pour plein de raisons, en fait, la présence d'une ressource très précieuse aussi peut aussi paradoxalement amener la ruine de la population qui la trouve, quoi.
Absolument.
Et par ailleurs, donc, l'autre question, c'est la question des climats. Alors, Frank Herbert est tout à fait dans une théorie des climats un peu bizarre, puisque, voilà, c'est le désert qui fait la force, etc. Mais, donc, comment est-ce que ça vous a stimulé, disons, la manière dont il exploite le climat, notamment d'Arrakis?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il en fait un vecteur d'analyse politique. C'est-à-dire que quand on regarde ce que lui souhaitait mettre en avant, le pitch principal de l'œuvre, finalement, c'est attention aux leaders charismatiques. C'est attention au super-héros qui devient un anti-héros, dont la croisade lui échappe et qui est rattrapé par la construction d'un système un peu bureaucratique qui continue à porter son œuvre, qui lui échappe finalement et qui se transforme en une sorte de totalitarisme qui mène à, en gros, au génocide. Et derrière ça, il utilise la variable écologique comme, finalement, comme fondement idéologique de cette construction du leader charismatique, du Mahdi, du Messie, que va incarner Paul Adrid ou Muad'Dib pour les Fremen. Et il est à la fois extrêmement, extrêmement actuel et en même temps complètement à contre-courant de cette variable écologique qui est quelque chose de très important pour la société aujourd'hui, qu'on discute beaucoup, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il y a des travaux qui ont été publiés récemment, je pense à ceux de Pierre Charbonnier, à ceux d'Adrien Estève, sur la guerre et l'écologie. Et lui, il a une vision à la fois complètement décalée et en même temps assez précurseur de cette variable écologique dans les conflits. Ça, c'est à l'échelle stratégique. Et à l'échelon tactique, il y a une préfiguration finalement de la géo-ingénierie, de la façon dont la variable environnementale peut jouer à terme dans, dans un combat sur le terrain. Et je pense notamment lors de la chute d'Arrakis, la bataille finale du deuxième opus, à cette utilisation de la tempête combinée à des atomiques qui va être la force qui va permettre de traverser le bouclier de l'empereur et donc d'arriver dans la capitale. Et là aussi, à l'échelon tactique, il y a ce questionnement autour de la façon dont on peut utiliser la géo-ingénierie, une variable environnementale dans les conflits. Et ça, c'est très actuel.
Pourquoi ? Enfin, ça se retrouve où ?
Il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui autour de qu'est-ce qu'on fait finalement de, est-ce que d'abord le changement climatique peut être atténué par la géo-ingénierie ? Qui est quelque chose d'extrêmement débattu avec, si je schématise, les sciences de l'ingénieur qui poussent plutôt pour cette possibilité, et puis les sciences politiques de l'autre côté qui, elles, mettent en garde sur la gouvernance de cette géo-ingénierie, notamment utilisée à une très grande échelle. Et puis il y a la question de l'emploi à des fins stratégiques, et notamment alors tout ce qui va être l'achat de substances dans l'atmosphère ou la stratosphère qui vont générer de la pluie ou non, qui permettent un certain contrôle finalement sur l'environnement immédiat, que les Russes ont beaucoup utilisé notamment, qui est une question qu'on pose aujourd'hui, notamment dans la perspective de conflits futurs.
Bon, et l'un dans l'autre... C'est intéressant parce que c'est une question qui se pose vraiment que sur le désert. C'est sur le désert que se passe le premier livre de Frank Herbert, mais après ça se déplace un peu. Mais il y a une sorte de... Frank Herbert a une tendance à poser une... Enfin, il n'y a pas que se servir de l'environnement, c'est aussi il y a l'idée que les hommes sont une émanation directe de l'environnement et que dans une certaine mesure, les hommes ne se battent comme ils se battent que parce qu'ils sont originaires d'un certain endroit et qu'il est quasiment... Enfin, qui paraît assez... assez impossible d'apprendre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire peuple et l'émanation d'un système écologique, et c'est tout, quoi.
Ouais. Alors ça, c'est intéressant, notamment, par exemple, dans la perspective des... On travaille, par exemple, à l'IRSEM, il y a un axe climat qui travaille sur la question de l'adaptation des armées au changement climatique. Qu'est-ce que ça change pour l'entraînement des forces armées de devoir évoluer dans des environnements plus chauds, plus humides, ou au contraire, plus froids ? Et comment est-ce qu'il va falloir adapter les corps, l'entraînement, les phases d'entraînement. Et ça, c'est assez bien traité, finalement, dans l'œuvre. On le voit, la façon dont le corps de Paul Atreides va petit à petit s'adapter à l'environnement. Comment est-ce que l'environnement lui-même, en fait, devient un système d'entraînement militaire qui va être exploité pour obtenir une supériorité stratégique.
Et enfin, bon, il y a aussi un truc, on l'a pas, enfin, je sais pas à quel point on l'a dit, mais il y a un effet d'actualité, clairement, de l'histoire de Dune, qui est le fait que, le dernier Dune, celui de Denis Villeneuve, il est quand même sorti au moment de la chute de Kaboul. Donc il y a sans doute un parallèle un peu à creuser entre la géopolitique, disons, et l'histoire. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est une histoire si célèbre ? Pourquoi est-ce que c'est un livre qui a aussi marché ? Parce que c'est une très belle histoire de contre-insurrection. Enfin, d'insurrection et de contre-insurrection échouée. Et ça, on pourrait dire que c'est un peu comme Star Wars, quoi. Les parallèles géopolitiques ont été nombreux, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est un support de projection très très vaste, qui mélange à la fois des mythes, le mythe de la guerre des Atrides, des mythes auxquels il est possible de se référer, et en même temps, c'est même pas qu'il a anticipé, mais c'est qu'on peut lui projeter dessus, notamment un certain nombre d'événements qui ont eu lieu en Afghanistan, et qui sont intéressants parce qu'on les retrouve en fait dans l'ADN graphique, notamment des différents films qui ont été faits autour de Dune. La question de l'Empire, la question de l'Empire soviétique notamment. On a parfois, dans certaines adaptations, je pense à celle de 2000, des caractéristiques graphiques de la famille Harkonnen, tout en rouge, qui rappellent en fait les codes visuels de l'URSS. Et là, cette conjoncture d'événements qui fait que Dune sort en septembre 2021, juste après la prise de Kaboul, et que les lecteurs qui ont lu le livre, finalement, savent qu'en fait, la prise d'Arrakis va avoir lieu, qu'il va falloir la filmer. Et il y a toute cette question de, finalement, quels sont les codes qui vont être repris de la prise de Kaboul, à la fois celle côté soviétique et puis celle côté américain, et comment est-ce que ça va être traité dans l'opus 2 qui doit être tourné en 2003.
2023, ouais. Non, et simplement, pour terminer, on peut peut-être dire un mot sur cette figure de leader charismatique, parce c'est un truc très compliqué. Alors, les figures de leader sont très compliquées dans Dune, d'une manière générale, parce qu'elles sont toutes fragmentaires. Enfin, il y a les leaders tyranniques, il y a les leaders... Mais bon, les Atreides, ils ont tendance à plutôt régner par la douceur et par le respect, même si on va voir dans les épisodes, enfin dans les tomes suivants de Dune, que ça va être de plus en plus problématique, notamment pour Paul Atreides. Mais en tout cas, dans le premier tome, qui est celui, évidemment, qui a eu le plus grand succès, le plus grand retentissement, voilà, mais en même temps, pointe derrière ce leader charismatique toujours le danger de la tyrannie. Au fond, c'est un peu la tension qui est à l'œuvre dans Dune, quoi.
Oui, et ça, c'est bien pris par le film, pour le coup, qui montre bien la dualité qu'il y a en Paul Atreides, qui est perceptible assez vite dans les scènes, notamment celle de la récolte d'épices, où on commence à sentir, en fait, cette dualité chez lui, la perception d'un avenir qui lui échappe complètement, de ce djihad qui va se répandre sur l'Empire planétaire et qu'il ne peut pas arrêter, et qui est à la fois quelque chose qu'il génère et qui en même temps va lui échapper, avec cette idée que finalement il n'y a pas de héros, il n'y a pas de réel leader qui soit à la fois un empereur et en même temps qui soit bénéfique à son peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est un peu le sens finalement de ce que Frank Herbert dit avoir voulu mettre dans Dune, c'est-à-dire un appel au sens critique vis-à-vis des idées totalitaires, vis-à-vis des idées globales et systémiques qui ont pour prétention de construire un système total. Et c'est assez intéressant qu'il ait choisi l'écologie finalement pour faire ça. C'est assez actuel par rapport au débat d'aujourd'hui de mettre sur la table cette exigence de réflexivité par rapport à ces idées holistiques.
Mmh. Ouais, c'est intéressant. Pour terminer sur ce que vous disiez à la fin, ce que vous disiez tout à l'heure sur la géo-ingénierie, c'est vrai qu'on peut le dire, on peut le rappeler pour ceux qui n'ont pas vu le film depuis un moment, c'est bon, l'angle mort, c'est que Dune, l'objectif c'est de terraformer Dune, c'est de n'en faire donc une sorte de terre, de la rendre vivable, et donc pour ça en fait il faut déclencher, en gros c'est l'objectif des Fremen, c'est de déclencher une sorte de cycle vertueux, en fait, de déclencher le cycle de la pluie, quoi.
C'est ça, un cycle de l'eau.
Un cycle de l'eau, en fait, qui n'existe pas sur Dune à ce moment-là. Et du coup, mais c'est intéressant, parce que, du coup, c'est arrêté, parce qu'il découvre l'épice, et que, du coup, personne ne veut qu'il n'y ait plus d'épice, personne ne veut que le désert s'en aille, parce que si le désert disparaît, l'épice aussi, potentiellement. Et du coup, c'est presque en sens inverse, c'est-à-dire le désir de ne pas terraformer, de ne pas améliorer l'écologie, le refus de la géo-ingénierie pour maintenir un complexe d'extraction des ressources rentable, quoi.
Exactement. Et là-dedans, il y a une figure intéressante qui est celle du planétologiste, Liet Kynes, qui, lui, est un métissage culturel entre la culture de l'Empire et la culture des Fremen, qui porte cet idéal de transformation écologique, avec vraiment des descriptions dans le livre, et puis c'est assez bien repris dans le film sur la façon de transformer un climat, qui le porte en secret. C'est-à-dire que il y a tout un système de pots de vin, justement, pour que les colons, qui vont être... les Harkonnen, puis les Atreides, ne voient pas ce qui se passe sur la surface de la planète et la façon dont petit à petit Dune est terraformée. Et donc on a vraiment cette espèce de duel écologique qui sous-tend l'œuvre et qui sous-tend le film, avec ces rêves que va faire Paul Atreides de verdure, d'eau, au fur et à mesure de son initiation et de l'absorption qu'il va faire de l'épice, qui est une substance psychotrope. Et donc on voit bien cette espèce de dualité entre l'extraction pure d'un côté et puis le rêve d'une terraformation un peu idyllique et d'une sorte d'Éden qui tourne autour du cycle de l'eau.
Mais ça renvoie un peu avec la malédiction des ressources, au sens où ça renvoie d'autres choses qu'on a pu lire vraiment en géographie, sur le fait que les économies d'extraction reposant sur une monosource de revenus, souvent ça crée des... ou en tout cas ça peut être dans des sociétés dysfonctionnelles, et que dans le fond, pas grand monde a intérêt à les rendre plus fonctionnelles, parce que c'est toujours la crainte que la ressource disparaisse, ou en tout cas que tout changement mette en péril le modèle économique, et que du coup ça a tendance à maintenir des systèmes dysfonctionnels.
Oui, c'est ça, c'est vraiment la question de qui a accès à la ressource, qui en assure la distribution, et qui contrôle la ressource finalement. Et Paul Atréide a cette phrase intéressante qui dit que finalement celui qui contrôle une ressource, c'est celui qui est capable de la détruire.
Très bien, merci beaucoup Angélique Pal.
Merci Alexandre.
Donc je vais rappeler ce Dune 2 de Denis Villeneuve sorti en septembre 2021.